Question. Comment donc il y aurait tout de même des mésententes? Réponse. Dans la mesure où les humains demeurent attachés aux choses extérieures, c'est vrai. Il y a une façon d'éliminer vraiment la guerre et toute expérience d'agitation et de manque de paix. Mais c'est une solution spirituelle. Celle que nous explorons ici est géopolitique. En réalité, il s'agit de combiner les deux. La vérité spirituelle doit être vécue dans la vie pratique pour changer l'expérience quotidienne. Jusqu'à l'arrivée de ce changement, il y aurait tout de même des désaccords, tu as raison, mais pas nécessairement des guerres. Il n'est pas nécessaire de tuer. Y a-t-il des guerres entre la Californie et l'Oregon à propos des droits sur l'eau? Entre le Maryland et la Virginie à propos des pêcheries? Entre le Wisconsin et l'Illinois, l'Ohio et le Massachusetts? Question, non. Réponse, et pourquoi pas? N'y a-t-il pas eu divers conflits et différends entre eux? Question, au fil des années, j'imagine que oui. Réponse, évidemment. Mais ces états distincts se sont volontairement entendus. C'était un accord volontaire et simple pour respecter des lois et des compromis sur des questions communes, tout en retenant le droit d'adopter des statuts distincts sur des questions qui les concernaient séparément. Et lorsqu'il survient vraiment des disputes entre États, à cause d'interprétations différentes de la loi fédérale, ou du fait que quelqu'un enfreint tout simplement cette loi, la question est soumise à un tribunal auquel on a accordé l'autorité. Ce sont les États qui lui ont donné l'autorité de résoudre la dispute. Et si la jurisprudence actuelle ne fournit aucun précédent au moyen par lequel la question peut être menée devant les tribunaux jusqu'à une résolution satisfaisante, les États et leur population envoient leurs représentants à un gouvernement central pour tenter de créer un accord sur de nouvelles lois qui produiront une condition satisfaisante, ou tout du moins un compromis raisonnable. C'est ainsi que fonctionne votre confédération. Un système de lois, un système de tribunaux auquel vous avez donné le pouvoir d'interpréter ces lois, et un système judiciaire, appuyé par une force armée, au besoin, pour appliquer les décisions de ces tribunaux. Bien que personne ne puisse prétendre que le système n'a besoin d'aucune amélioration, cette concoction politique fonctionne depuis plus de 200 ans. Il n'y a aucune raison de douter que la même recette fonctionnera aussi bien entre les États-nations. Question. Si c'est si simple, pourquoi ne l'a-t-on pas essayé? Réponse. On l'a essayé. Votre Ligue des Nations était une première tentative. Les Nations Unies en sont la plus récente. Mais l'une a échoué et l'autre n'a eu qu'une efficacité minimale parce que, comme les 13 États de la Confédération américaine originelle, les États-nations membres, en particulier les plus puissants, ont peur d'avoir davantage à perdre qu'à gagner de la reconfiguration. C'est parce que les gens de pouvoir se soucient davantage de s'accrocher à leur pouvoir que d'améliorer la qualité de la vie pour tous les gens. Les nantis savent qu'inévitablement une telle fédération mondiale produirait davantage pour les démunis, mais les nantis croient que cela arrivera à leurs dépens, et ils ne cèdent rien. Question. Leur peur n'est-elle pas justifiée? Est-il déraisonnable de vouloir s'accrocher à ce pour quoi on s'est si longtemps battu? Réponse. D'abord, il n'est pas nécessairement vrai que, pour donner davantage à ceux qui crèvent à présent de faim et de soif et vivent sans abri, d'autres doivent céder leur abondance. Comme je l'ai souligné, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le trilliard de dollars dépensés annuellement à des fins militaires dans le monde et de le détourner vers des buts humanitaires. Et vous aurez résolu le problème sans dépenser un sou additionnel ni déplacer la moindre part de la richesse de là où elle se trouve présentement vers là où elle ne se trouve pas. Bien entendu, on pourrait prétendre que les conglomérats internationaux dont les profits proviennent de la guerre et des armes de guerre seraient des perdants, tout comme leurs employés et tous ceux dont l'abondance provient de la conscience conflictuelle du monde. Mais peut-être votre source d'abondance est-elle déplacée? Si, pour survivre, il faut dépendre du fait que le monde vit dans le conflit, peut-être cette dépendance explique-t-elle pourquoi votre monde résiste à toute tentative de créer une structure de paix durable. Quant à la seconde partie de ta question, il n'est pas déraisonnable de vouloir s'accrocher à une chose qu'on a acquise au prix de si longues luttes, en tant qu'individu ou que pays, si vous venez d'une conscience du monde extérieur. Question. Une quoi? Réponse. Si vous tirez votre plus grand bonheur d'expérience qu'on ne peut obtenir que du monde extérieur, le monde physique extérieur à vous-même, vous ne voudrez jamais abandonner un gramme de ce que vous avez accumulé en tant que personne et que pays pour vous rendre heureux. Et tant que les démunis considéreront leur malheur lié au manque d'objets matériels, eux aussi seront pris au piège. Ils voudront constamment ce que vous avez, et vous refuserez constamment de le partager. C'est pourquoi j'ai déjà dit qu'il y a une façon de véritablement éliminer la guerre, et toute expérience d'agitation et de manque de paix. Mais c'est une solution spirituelle. En définitive, chaque problème géopolitique, ainsi que chaque problème personnel, se réduit à un problème spirituel. Toute la vie est spirituelle, et, par conséquent, tous les problèmes de la vie ont des bases spirituelles et des solutions spirituelles. Des guerres éclatent sur votre planète parce que quelqu'un a quelque chose que quelqu'un d'autre veut. C'est ce qui pousse quelqu'un à faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne veut pas qu'il fasse. Tout conflit surgit d'un désir mal placé. La seule paix au monde qui soit nourrissante est la paix intérieure. Que chaque personne trouve la paix en elle. Lorsque vous trouverez la paix en vous-même, vous découvrirez également que vous ne pouvez vous en passer. Cela veut tout simplement dire que vous n'avez plus besoin des choses de votre monde extérieur. Être dépourvu de besoins est une grande liberté. Cela vous libère d'abord de la peur de ne pas avoir quelque chose, la peur de perdre quelque chose, et la peur de ne pas être heureux sans telle chose. Deuxièmement, être sans besoin vous libère de la colère. La colère est l'annonce de la peur. Lorsque vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien contre quoi vous mettre en colère. Vous n'êtes pas en colère lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez, parce que le fait de le vouloir n'était qu'une préférence et non une nécessité. Par conséquent, vous n'avez aucune crainte associée à la possibilité de ne pas l'obtenir. Par conséquent, vous ne ressentez aucune colère. Vous n'êtes pas en colère lorsque vous voyez d'autres faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent, car vous n'avez pas besoin qu'ils fassent ou non une chose en particulier. Par conséquent, vous ne ressentez aucune colère. Vous n'êtes pas en colère lorsque quelqu'un manque de gentillesse, car vous n'avez pas besoin qu'il soit gentil. Vous n'avez aucune colère lorsque quelqu'un manque d'amour, car vous n'avez pas besoin qu'il vous aime. Vous n'avez aucune colère lorsque quelqu'un est cruel ou blessant ou cherche à vous nuire, car vous n'avez pas besoin qu'il se comporte d'aucune autre façon, et vous êtes certain de ne pas subir de tort. Vous n'êtes même pas en colère si quelqu'un cherche à s'en prendre à votre vie, car vous ne craignez pas la mort. Lorsque la peur vous est enlevée, tout le reste peut vous être enlevé et vous ne serez pas en colère. Vous savez intérieurement, intuitivement, que tout ce que vous avez créé peut être créé à nouveau ou, qui plus est, que c'est sans importance. Lorsque vous trouvez la paix intérieure, ni la présence ni l'absence de quelque personne, endroit ou chose, état, circonstance ou situation que ce soit, ne peut être le créateur de votre état d'esprit ou la cause de votre expérience d'être. Cela ne veut pas dire que vous rejetez toutes les choses du corps, loin de là. Plus que jamais, vous faites l'expérience d'être pleinement dans votre corps et des délices de cet état. Mais votre préoccupation envers les choses du corps sera volontaire et non obligatoire. Vous éprouverez des sensations corporelles par choix, et non parce que vous êtes obligé de le faire afin d'être heureux ou de justifier la tristesse. Ce simple et unique changement, chercher et trouver la paix en soi, pourrait, s'il était entrepris par chacun, mettre fin à toutes les guerres, éliminer les conflits, prévenir l'injustice et amener le monde à une paix durable. Aucune autre formule n'est nécessaire ou possible. La paix mondiale est une chose personnelle. Ce qu'il faut, ce n'est pas un changement de circonstances, mais un changement de conscience. Question. Comment pouvons-nous trouver la paix intérieure lorsque nous avons faim? Être dans un espace de sérénité lorsque nous avons soif? Demeurer calme lorsque nous souffrons de l'humidité et du froid et que nous sommes sans abri? Ou éviter la colère lorsque nos proches meurent sans raison? Tu parles de façon bien poétique, mais la poésie est-elle pratique? A-t-elle quelque chose à dire à la mère éthiopienne qui regarde mourir son enfant émacié faute d'une tranche de pain? À l'homme d'Amérique centrale qui sent une balle déchirer son corps parce qu'il a tenté d'empêcher une armée de s'emparer de son village? Et que dit ta poésie à la femme de Brooklyn violée 8 fois par un gang? Ou à la famille de 6 en Irlande déchiquetée par une bombe que des terroristes ont posée un dimanche matin dans une église? Réponse. Même si c'est difficile à entendre, je te dis ceci. Il y a de la perfection en tout. Efforce-toi de voir la perfection. Voilà le changement de conscience dont je parle. N'aie besoin de rien, désire tout. Choisis ce qui se présente. Sens tes sentiments, verse tes larmes, éclate de ton rire, respecte ta vérité. Mais lorsque toute l'émotion sera tue, sois calme et sache que je suis Dieu. Autrement dit, au milieu de la plus grande tragédie, vois la splendeur du processus. Même pendant que tu meurs d'une balle dans la poitrine, même pendant que tu te fais violer par un gang. Cela semble impossible, mais lorsque tu entreras dans la conscience de Dieu, tu pourras le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, bien entendu. Tout dépend de la façon dont tu souhaites faire l'expérience de l'instant. Dans un instant de grande tragédie, le défi est toujours de calmer l'esprit et d'aller en profondeur au sein de l'âme. Tu fais cela automatiquement lorsque tu n'as aucun contrôle là-dessus. As-tu déjà parlé à quelqu'un qui avait accidentellement fait dévier une voiture en bas d'un pont, ou qui s'était trouvé devant un revolver, ou qui avait failli se noyer? Souvent, il te dira que le temps a beaucoup ralenti, qu'il était envahi par un calme curieux, qu'il n'y avait aucune peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ce que la poésie a à dire à la personne qui affronte la tragédie. À ton heure la plus sombre, je serai ta lumière. À ton instant le plus noir, je serai ta consolation. En ta période la plus difficile et la plus éprouvante, je serai ta force. Par conséquent, aie la foi. Car je suis ton berger, tu n'auras besoin de rien. Je vais te laisser t'étendre dans les verts pâturages. Je te mènerai auprès des eaux calmes. Je veux restaurer ton âme et te mènerai sur les sentiers de la droiture en mon nom. Et bien que tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi. Mon bâton et ma houlette vont vraiment te réconforter. Je suis en train de mettre la table devant toi en présence de tes ennemis. Joindrai ta tête d'huile, ta tasse débordera. À coup sûr, la bonté et la miséricorde vont te suivre tous les jours de ta vie, et tu demeureras en ma maison et en mon cœur à jamais.